Mon PowerPoint. OK, oui, ça marche. Merci, Juliane. OK, parfait. Donc, je vais ouvrir ma caméra. On reste droit comme ça. En famille ce matin. OK. Bon, on se paye un petit peu. OK. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble Jean, chapitre 1. Et puis, la dernière fois que j'avais prêché, j'avais fait un survol de l'évangile de Jean. Donc, il y a plusieurs choses que je ne reviendrai pas sur le survol que j'avais fait. Ça peut être intéressant à un moment donné de le réécouter. Donc, Jean chapitre 1, c'est 51 versets. C'est un gros message. C'est rare que je prêche un message de 51 versets. Fait que ça va être de la lecture. Non, non. Il y a deux grandes sections. Puis celle qui est le gros, gros moton, là, c'est vraiment du verset 1 au verset 18, qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean. Puis après ça, il y a le 19 à 51. Là, on va parler, la moitié du temps, on va parler de Jean-Baptiste, c'est qui est, qu'est-ce qu'il a fait. Puis après ça, on va regarder un petit peu des gens qui ont commencé à rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, déjà dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit la lancée du ministère public de Jésus, ses 4 premiers jours de ministère. Donc, il se fait baptiser, puis après ça, ping, 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 il y a 4 jours qui commencent, puis il est déjà à la fin des 4 premiers jours, il est déjà rendu avec 5 disciples, puis il est en route vers la Galilée, où on va voir le premier miracle de Jésus, qui est la multiplication du vin à Cana. OK, donc, l'évangile va commencer déjà à la fin du chapitre 1, on va voir Pierre, André qui rencontre Pierre, Philippe qui rencontre Nathaniel. Puis là, ben, c'est un petit peu ça, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est 7 rencontres principales, des discussions beaucoup de dialogues entre Jésus puis la personne, mais c'est toutes des personnes qui ont à prendre position pour Jésus. Puis la majorité des dialogues, ils prennent position, mais il y en a un qui ne prend pas position, là, c'est Pilate, par exemple, mais on voit beaucoup d'interactions. Donc, Jean lance la fin de son chapitre 1 avec qu'est-ce que va être composé de l'évangile de Jean. C'est une série de récits qui ont été soigneusement choisis pour qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'en croyant en lui, on peut savoir la vie en lui. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il y a beaucoup de vérités. Que vous allez trouver qui sont dans le chapitre 1, puis sont ailleurs dans l'Évangile. Je vais vous en donner juste quelques-uns. Puis ça, je vous disais dans mon dernier message que l'Évangile de Jean, c'est quelque chose qui peut être lu, relu et étudié. Parce que il y a Jean, quand il écrit quelque chose à propos d'un sujet, il le remet ailleurs, il cache des coquilles un petit peu partout, un peu comme le gâteau de la reine, là. On cache un pois dans un gâteau au chocolat, il fallait trouver le gâteau. Mais lui, il cache des surprises dans l'Évangile, puis c'est à nous de les trouver. Je vous donne quelques exemples de ça. Par exemple, la préexistence de Jésus, que Jésus existait avant la création, on le voit dès le chapitre 1, versets 1 et 2, là, hein? Mais on le voit aussi dans sa prière quand Jésus il prie son Père et il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. C'est rare un homme qui prie d'avoir quelque chose qu'il avait avant que le monde existe. Hein. Ce n'est pas un homme comme les autres. Donc, sa préexistence. En Jésus est la vie. On lit ça déjà au chapitre 1, verset 4. En lui était la vie. Puis on le voit aussi dans Jean 5, 26, après qu'il ait ramené les jambes d'un paralytique là, ou d'un boiteux à vie, tu sais, quelqu'un qui avait la mort dans les jambes, là. Il dit que le Père donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. La lumière vient dans les ténèbres rejettent la lumière. On a ça dans Jean 1, 5, mais on l'a aussi dans Jean 3, 19, que Jésus est venu, puis il est venu parmi les ténèbres, puis les ténèbres n'ont pas voulu venir à lui. La nécessité de devenir un enfant de Dieu, au chapitre 1, verset 13, ça dit que Dieu nous a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Puis quand il parle avec Nicodème dans Jean 3, 6, il lui propose de naître et qu'il a besoin de naître de Dieu, etc., etc. Donc, tu lis le chapitre 1, tu as une très bonne idée. Dans nos études du mercredi, on parle des ballons de soccer qui ont été lancés dans un gymnase au chapitre 1. puis Jean qui court, puis qui va faire avancer chacun de ses ballons pour toutes les amener de l'autre côté de la pièce. Fait que l'évangile de Jean est rempli de thèmes comme ça, puis quand que je vais prêcher sur ça, je vais vous dire ça, c'est un thème qui court au travers l'évangile de Jean. Ça va pouvoir vous aider à les cibler. Donc, on va regarder ensemble le prologue, c'est le chapitre 1, versets 1 à 18. Puis, j'ai appelé l'étude de « Nous avons contemplé sa gloire », puis il va falloir attendre d'être aux trois quarts de mon message pour voir qu'est-ce que je veux dire par là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean emprunte ici les premiers mots de l'Ancien Testament hébreu. Dans l'Ancien Testament hébreu, on dit « au commencement, Dieu ». Ici, c'est au commencement, la parole. Est-ce que Jean ne serait pas en train de substituer le mot « Dieu » par le mot « parole » pour que celui qui connaît bien l'Ancien Testament hébreu, la Genèse, il ne dise pas « au commencement, Dieu ». Là, Jean dit non, au commencement de la parole, il fait une substitution. Est-ce que c'est ce qu'il serait en train de faire? Serais-tu en train de jouer avec nous autres quand il écrit ça? OK? Intéressant. Dans les psaumes, on peut lire « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Puis le verset, ça c'est le psaume 33, verset 6. Donc, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée, qui est les étoiles, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Puis tout de suite après, le psalmiste, il dit au verset 9, « Quand il parle, la chose existe. » Donc, pour un Juif au premier siècle qui lit ça, ou une personne connaît un petit peu l'Ancien Testament, il dit, OK, ici, on parle du Créateur. Au commencement, Dieu, la parole, c'est le Créateur. Donc, la parole, c'est la meilleure façon d'exprimer qui Jésus est, parce que justement, quand Dieu, pour un Juif, Dieu créait le monde, c'est une parole. Le mot veut dire parole audible, une parole dite. Hein? On va continuer avec ce thème un petit peu. Quand le peuple d'Israël était entré dans le désert, il avait fui l'Égypte, Moïse, le dirigeant du peuple juif, avait demandé à Dieu, il a dit, « Je veux voir ta gloire. Montre-moi une manifestation de ta grandeur. » Puis Dieu, il a répondu quoi? « Tu ne peux pas me voir, mais tu peux m'entendre. » Ça, c'est en bon québécois. Mais il va lui dire, « Quelqu'un ne peut pas me voir et vivre. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révélé à lui par une parole audible. Ce n'est pas surprenant que quand une voix se faisait entendre des cieux, on avait un jargon pour ça en Israël, puis on disait que c'était la fille d'une voix. Donc, quand une voix se faisait entendre des cieux, on l'appelait la bat-colle, c'était la fille d'une voix. C'est l'expression qu'on traduit par la fille d'une voix. On disait que c'était Dieu qui nous avait parlé. Ce n'était pas rare quand vous lisez l'Ancien Testament hébreu que Dieu, qu'un prophète dise « La parole de l'Éternel m'est parvenue ». Même dans Ésaïe 55, il va dire que sa parole est comme une neige sur les montagnes qui sont très hautes, qui descend comme dans un courant d'eau, qui l'envoie sur la terre, qui arrose les fleurs, qui donne la vie et qui retourne à lui. Donc, l'idée d'envoyer sa parole, puis que Jésus soit la parole qui est envoyée par Dieu, c'est pas loin dans l'imaginaire d'un Juif là, qui connaît un petit peu son Ancien Testament. Donc, un Juif au premier siècle savait que la voix de Dieu ou la parole de Dieu, c'était un instrument pour créer le monde, se révéler, mais aussi pour juger et délivrer le monde. Okay? Donc, c'est la meilleure façon de présenter Jésus. Mais, voyez, j'aimerais que vous remarquiez que dans les 17 premiers versets de chapitre 1, on ne voit pas le nom de Jésus nulle part. Jean joue avec nous autres. Il joue à une devinette et il va nous dire que cette parole-là était avec Dieu. Puis dans l'original, ça veut dire orienté, face à face, en intimité, en communion avec. C'est comme en face comme ça. Tu sais, quand il disait ne connaissons-nous pas Jacques qui était parmi nous, c'est le même mot qui est utilisé avec, parmi, c'est le PROS, le mot pro qui est utilisé, qui veut dire avec, en face. Donc, la parole était distincte de Dieu, elle était avec lui, mais le verset dit « elle était Dieu ». Et certains, comme les témoins de Jéhovah, vont traduire « elle était le Dieu » pour dire que c'était un petit Dieu, comme quand Paul s'est fait mordre par un serpent, puis on a dit « c'est un Dieu ». Mais il n'y a pas d'article devant. On pourrait traduire « elle était, la parole était divinité », pas d'article. Donc, Jésus-Christ partage la divinité du Père et du Saint-Esprit, mais dans Jean 1, on ne voit pas trop le Saint-Esprit, sinon que Jean dit « j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe ». Mais dans le reste du Nouveau Testament, on voit vraiment cette idée-là que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu ou sont Dieu, mais ils ont chacun, sont chacun une personne et peuvent être face à face, l'un envers l'autre, en communion ensemble. Donc, par sa personne, dans les premiers versets, on voit que Jésus est Dieu de par sa personne, mais de par ses œuvres aussi. Il est le créateur du monde, puis on le voit là, qu'en elle était la vie. Cette parole-là est porteuse de vie. Puis regardez bien, regardez la Genèse, suivez avec Jean 1 au début. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coquille qui est créée. L'eau, la terre, tout est placé à sa place, les cieux, l'eau, tout est séparé. Puis après ça, que l'eau produise des poissons en abondance, que la terre produise des arbres en abondance, qu'il y ait tout de suite que des souffles remplissent le ciel, etc. Donc, Jean dit « en elle était la vie ». Donc, la parole, quand Dieu disait « la vie arrivait », et non pas simplement la coquille de la création, mais aussi tout ce qui est âme vivante, la parole a créé cela. Donc, de par sa personne, la parole est Dieu, mais de par ses œuvres, elle l'est aussi. Elle est créateur. Okay? Donc, les cinq premiers versets, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la parole qui est introduite par son caractère éternel. Donc, cette personne-là, qui est la parole, elle est introduite par le fait qu'elle est éternelle et créateur. On continue au verset 6 à 8. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, mais pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Réfléchissez un petit peu. Vous avez lu les autres évangiles, Matthieu et Luc nous parlent de sa naissance, sa généalogie, son origine humaine, tout ça. Mais aussi, Matthieu, il se concentre beaucoup sur les prophéties, tu sais, qu'il est le Messie qui est tant attendu. Mais Jean, il ne va pas là du tout. Lui, il dit « Non, moi, j'ai tué son petit cousin. » Un peu comme quand tu as un show, tu as toujours un artiste un petit peu comme moins bon là, qui vient faire le show. Ben Jean-Baptiste, c'est cet artiste-là qui est moins bon que Jésus. Puis Jean-Baptiste le dit lui-même, « Écoute, là, moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures là, pour y laver les pieds. Là. Mais je vais venir quand même faire l'avant-première, si vous voulez bien. Là, tu sais, mais je sais que c'est pour lui que vous êtes venu. » C'est ça que, parce que regardez bien dans les 18 versets, Jean-Baptiste il est mis en plein tout de suite après avoir parlé de la parole. Jean-Baptiste arrive là. C'est comme on est en train de parler du créateur de l'univers, puis tu me parles d'un gars qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors, Jean il va faire attention, dire hey, il n'est pas la lumière. Puis Jean il va dire de lui-même hey, je ne suis même pas un messager, je suis une voix. Jésus va dire. Que Jean-Baptiste est une lampe, puis vous avez voulu vous venir vous réjouir à sa lumière. Une lampe, une petite lampe. Pas la lumière, mais Jésus, lui, était la lumière. Donc, qu'est-ce que ici, Jean, là, quand je vais dire Jean, je vais parler de l'auteur Jean. Quand que je vais dire Jean-Baptiste, je vais parler de Jean-Baptiste. On sait que Jean n'a pas voulu se nommer dans l'évangile de Jean. Probablement, vous vous rappelez peut-être pourquoi. Je vais donner quelques raisons. Une de celles-ci, c'est parce qu'il ne voulait pas faire de confusion avec Jean-Baptiste, probablement. Donc, qu'est-ce que Jean, son message, ses efforts, tout ce qu'il fait comme ministère, c'est quoi qu'il désire? Lui, il veut que tout le monde croie par lui. Il veut que par son entremise, tout le monde croie par lui. Dans l'évangile de Jean, il y a 100 fois le mot pisteo, pisteuo, okay, pisteo, et ça veut dire croire dans sa forme active. Okay? Trois fois plus que dans trois évangiles combinés ensemble. Écoutez, c'est important pour nous croyants. L'évangile de Jean, il y a trois fois plus que les trois évangiles combinés ensemble. Il y a 100 fois, tandis que les autres, 30 fois pour les trois. Le verbe croire dans sa forme active, placer sa confiance. Et dans l'Ancien Testament hébreu, le mot grec, pisteo, quand on traduit l'Ancien Testament dans la langue du peuple où Jésus parlait avec ses disciples, puis que la langue du Nouveau Testament, quand c'est traduit en grec, c'est le mot qui est utilisé quand que Dieu il cherche une réponse de son peuple Israël, que son peuple croit. OK. Le livre de Jean, ça, on voit quoi? On voit que la majorité des gens ne croient pas en lui et ça mène à sa crucifixion. L'élite, puis l'élite le fait crucifier, puis une grande majorité ne croit pas en lui, mais il y a certaines personnes, dans le livre, tu vois une femme au puits, elle parle avec le Seigneur, elle ne croit pas au début, puis elle finit par croire, puis après ça, elle va en parler à son village, il ne croit pas au début, il croit à elle, mais il ne croit pas au Seigneur, mais après, il dit, ah, ce n'est pas à cause d'elle qu'on croit, c'est à cause qu'on t'a vu, on t'a connu, on t'a entendu. Fait que, il y a beaucoup d'histoires qui nous montrent ces témoignages-là, qu'il y en a certains qui croient, puis là, on est rendu au verset 9 à 13. Cette lumière, en parlant de la parole, dans laquelle elle avait la lumière en elle. Cette lumière était la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, beaucoup l'ont rejeté, mais il y en a certains qui ont décidé de l'accepter. Puis, encore une fois, voyez-vous son nom à cette lumière-là? À ceux? Hein? Donc, Jean joue aux devinettes et laisse au lecteur poser la question et tenter d'y répondre ceux qui ont cru en son nom. Alors, le lecteur se gratte la tête et dit, bien, quel nom? Et bien, le nom, c'est celui à qui ces choses sont arrivées. On va aller regarder le verset suivant. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste, c'est son petit cousin, parce que dans le fond, la mère de Jésus, c'est la cousine d'Élisabeth. Jean-Baptiste, il est né 6 mois avant, mais il dit qu'il était avant lui. Chez les Juifs, il y avait cette idée du premier-né. Quand tu étais le premier à être né, tu avais le droit à une double part de l'héritage, donc tu avais une prééminence. Mais premier-né ne veut pas toujours dire premier dans le temps. Des fois, ça voulait dire aussi, par exemple, un roi pouvait être le premier-né, dans le sens où il y avait une plus grande dignité. Fait que Jean-Baptiste peut vouloir dire que Jésus est beaucoup plus important que lui. Mais il peut aussi vouloir dire que celui qui est né après lui, il l'a créé, qu'il était bien avant lui. Moi, je pense que c'est ce que ça veut dire. Je pense que dans le contexte de tout ce qu'on vient de lire de l'Évangile, quand il dit qu'il était avant moi, ça me fait penser à quand que Jésus a dit qu'il était avant Abraham. Il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, je pense que c'est le but de Jean même, de son Évangile, de nous montrer qu'il est le Créateur, donc avant toute chose. Mais on peut vous faire votre idée là-dessus. Là, j'ai après 30 ans de vie chrétienne, je découvre ce petit point-là. Puis j'ai dit en prière au début du rassemblement, j'ai l'impression que mes mots, c'est comme du plomb. Ils vont tomber à terre en avant de moi. Puis je ne donne pas beaucoup de temps dans mon message à cette vérité-là. Peut-être que vous l'avez vu, vous autres, puis que c'est moi qui arrive trop tard sur ça, puis que je ne suis pas en train de vous annoncer une bonne nouvelle, mais j'ai vraiment aimé étudier ça. Puis ces wow-là, ça fait 2 mois que je les ai eus, fait qu'il fallait que je me re-wow pour essayer. Puis un de mes défis dans mon message, c'est que je vous donne peut-être 2, 3, 4 % de ce que j'ai étudié dans les trois derniers mois. Comme je disais à Stéphane, mon défi, c'est de prendre avec 51 versets, faire un message de 40 minutes avec, puis en plus, de ressortir les wow, que je dois faire des re-wow pour vous le partager. Mais soyez avec moi si vous voulez, puis je vais essayer avec les mots comme du plomb. C'est à moi que le Saint-Esprit m'aide, ça va peut-être s'envoler jusqu'à votre cœur. Mais il faut revenir à Moïse pour comprendre la suite du passage des prochains versets, OK? Donc, 16 à 18, on va lire ça ensemble. « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Encore une fois, si vous voyez juste comme l'extérieur du tabernacle, vous allez voir des peaux drabes qui ne sont pas attirantes, mais à l'intérieur de la tente de l'Éternel, il y a des murs en or, puis les chandeliers brillent là-dessus. Fait, si ce n'est pas maintenant, puis vous dites à la fin du message, « As-tu vu, toi, ce que Jean-Sébastien avait trouvé? » C'est correct, c'est normal, OK? Mais si vous voulez, on peut en reparler, puis je pourrais vous partager un peu plus. Mais, encore une fois, vous l'avez probablement déjà découvert. OK. Dans le désert du Sinaï, peu de temps après que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a appelé Moïse à monter sur la montagne pour lui donner les commandements. La montagne est en feu à un certain moment, là, tu sais, puis il y a eu toute cette démonstration-là. Puis même les animaux, il ne fallait pas qu'ils s'approchent à un certain moment de la montagne. Et dans cette rencontre-là, sur la montagne, Dieu va lui donner des commandements. Puis un de ceux-ci, c'est comment faire le tabernacle. Okay, la tente où il va appeler la tente de la rencontre, l'endroit où Dieu va rencontrer son peuple, puis il va parler face à face. Puis ça va devenir un peu le tabernacle avec toutes les divisions. Ça va devenir le lieu de la rencontre aussi pour faire le sacrifice en attendant qu'il y ait un temple. Mais au début, c'était sous sa forme simple. Moïse rentrait dans la tente. Il voyait la gloire de l'Éternel, pas l'Éternel lui-même. Puis il sortait, puis il y avait la face qui brillait dans le noir, tu sais. Donc, Dieu lui donne des indications pour faire la tente de la rencontre pleine de gloire, cette tente-là. Et c'est là qu'il va le rencontrer, puis il va se révéler à lui. Mais pour le moment, il est sur le top de la montagne. Et mais là, pendant qu'il est sur la montagne, il y a une série d'événements qui se produisent, dont les gens, ils se font avec de l'or, ils se font un veau d'or, puis ils disent, ça, c'est le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et au chapitre 33 et 34, ce sera des choses que vous pourrez lire à la maison. Mais au chapitre 33, on voit Moïse supplier Dieu de marcher avec eux, puis il dit, montre-moi que j'ai trouvé grâce à tes yeux, puis que tu vas marcher toi-même avec nous, parce que Dieu était comme, bien, ils ne veulent pas que je sois leur Dieu. Regarde, ils ont fait un Dieu d'or, tout ça. Ils ne veulent pas que je sois leur Dieu, fait que je ne marcherai pas avec un peuple qui est rebelle et contredisant. Puis Moïse va intercéder, puis il va lui demander, si moi j'ai trouvé grâce, marche avec nous, puis si tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas d'ici. Fait qu'il y a une négociation, puis Dieu il lui dit qu'il n'abandonnera pas son peuple qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Puis Moïse va ajouter une autre demande. Et cette demande est la suivante. Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu va lui dire, OK, je vais faire passer devant toi toute ma bonté et toute ma miséricorde, mais pour ma face, tu ne pourras pas la voir. Je vais te mettre dans le creux du rocher, je vais mettre ma main, je vais écarter un peu mes doigts, puis tu vas me voir de dos, mais tu ne me verras pas. Mais je vais faire passer devant toi ma bonté. Puis après ça, c'est écrit que c'est comme ça que Moïse a vu la gloire de Dieu. Donc, il a vu la gloire, puis Dieu s'est révélé à lui. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce qui se passe. On lit au verset suivant. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, Dieu miséricordieux, Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. c'est quelque chose. Moïse, il dit, je veux voir ta gloire, puis qu'est-ce que Dieu fait passer? Il fait passer Dieu qui parle à Dieu. Dieu qui était en face de Dieu. Dieu dit de Dieu qu'il est bon et compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche. Et là, le mot est bonté et fidélité. Le mot bonté et fidélité, quand c'est traduit en grec, on appelle ça la Septante. C'est le mot grâce et le mot vérité qui est utilisé. Plein de grâce ou riche en grâce et en vérité. Il est lent. Et le mot, c'est vraiment une bonté qui, je vais le dire plus tard, c'est une bonté, loving kindness, une bonté bienveillante, un amour de pleine bonté. Puis vérité, c'est un mot pour quelqu'un. Tu sais, quand on dit ça, c'est un fiable, cette personne-là. Il est fiable, il est vrai. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de fiable. Donc, ces deux mots-là, lorsqu'ils sont jumelés ensemble dans l'Ancien Testament hébreu, ça parle de Dieu qui va tenir son alliance avec fidélité, qui va garder les termes de son alliance puis qui va être bon envers l'alliance qu'il a faite. Parce qu'il s'est lié avec le peuple d'Israël par alliance, il va aussi avoir une bonté puis une lenteur à la colère, une fidélité envers eux, comme ça. OK? Donc, il y a plein de versets que je n'ai pas le temps de passer aujourd'hui, mais le mot bonté et fidélité, jumelés ensemble, ça parle d'un Dieu qui est bon envers le peuple qui l'a racheté, en gros. Qui est lent, qui ne punit pas tout de suite rapidement, qui est lent à se mettre en colère, ne s'irrite pas. On est en train d'étudier ça avec doux et humble de cœur, là, justement, cette vérité-là à propos de Dieu. Et le texte nous dit que Jean a contemplé sa gloire. Moïse a demandé à voir sa gloire. C'est une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père qui est venu plein de grâce et vérité avec une bonté liée à l'Alliance. Donc, souvent, on voit le mot grâce et on dit, on s'en va dans les écrits de l'apôtre Paul qui nous parle que la grâce, c'est une faveur donnée sans la mériter. Mais ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps, cette définition-là. Puis c'est Jésus qui a augmenté le sens du mot grâce. Mais dans l'Ancien Testament, le mot grâce voulait dire quelque chose de bon, de beau, de belle chose. Jésus est venu plein de bonté et de fidélité. Et Jean dit qu'il a reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et on pourrait dire, j'ai souvent prêché, le mot grâce ou grâce peut vouloir dire grâce successivement, dans le sens comme une qui n'attend pas l'autre, là, comme une vague là, sur le bord de la mer. On a reçu grâce, grâce après grâce. Dieu n'a pas arrêté de nous faire sa grâce, de nous donner ce qu'on ne méritait pas. T'sais. Mais le texte veut dire aussi grâce après grâce, ou grâce dans le sens, comme quand tu fais ton changement d'huile, je mets de la nouvelle huile pour remplacer la vieille huile. Il y a d'autres images aussi qu'on peut utiliser, mais l'idée, c'est que la grâce que Jésus-Christ a apportée, c'est une grâce qui remplace la grâce que Dieu a montrée à Moïse. Et ça, c'est intéressant parce que la grâce que Dieu a montrée à Moïse, c'est quoi? Je ne vous lâcherai pas. J'avais pensé vous lâcher, mais je ne vous lâcherai pas parce que Moïse a intercédé pour vous. Je vais marcher avec vous, je vais être là dans l'attente de la rencontre, je vais répondre à quand vous allez avoir besoin, etc. Ça, c'est la grâce de Moïse, puis la grâce de Jésus qui vient remplacer la grâce que Dieu avait donnée dans la période de la loi, eh bien, elle va être remplacée par celle de Jésus-Christ. Donc, non seulement Dieu va marcher avec Moïse, comme il a marché avec Moïse, mais écoutez bien, Dieu, il ne va pas juste marcher puis montrer un aspect de sa gloire dans l'attente de la rencontre. Il va lui-même tabernacler parmi nous. Et le mot qui est utilisé il a habité parmi nous, c'est le mot tabernacle qui est utilisé. Il est venu faire le tabernacle. Fait que là, on a cette histoire sur la montagne. Dieu montre à Moïse comment faire le tabernacle. Il va le faire. Dieu va venir dedans, ce tabernacle-là. Là, Dieu dit, regarde, c'est pas la grâce. Ça, c'est la grâce de Moïse. Moi, la grâce de Jésus-Christ, c'est, c'est Jésus qui va venir lui-même, son corps va être le tabernacle, puis à un moment donné, il y a comme un zeppeau qui a été ouvert, puis les gens ont vu sa gloire quand il était sur le monde de la transfiguration. Puis dans 1 Jean 2 ou 1 Jean 1, 2, Jean dit, nos yeux ont vu, nos mains l'ont touché, puis on a vu la gloire du Fils de Dieu. Donc, Jésus et sa chair est comparée aussi à un voile. Donc, sa chair elle-même, son corps, y est l'habitation de Dieu et y est rempli de toute la gloire de Dieu. Bon, il est venu poser sa tente parmi nous. Il est venu tabernacler parmi nous. Et Jésus est la bonté et la fidélité incarnée à Moïse. Dieu a donné la loi, mais Jésus, lui, a amené la gloire de Dieu sur deux pattes. Il a amené la présence du Créateur parmi nous. Et sa gloire, il va la montrer. Vous allez voir déjà dans le prochain miracle, dans le chapitre 2, c'est écrit, « Et il montra sa gloire. » Et là, il a multiplié les temps. Quand il va ressusciter Lazare, il va dire aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Il va parler d'un boiteux, il va dire aussi, je pense que c'est à l'aveugle-né, il va dire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il va manifester sa gloire plus tard dans l'Évangile. En tout cas, si vous voulez là, méditer là-dessus, lisez Genèse 33 et 34 avec Jean 1, puis du verset 14 au verset 18, puis regardez tous les parallèles que vous pourriez faire. Puis je vous souhaite de voir sa gloire comme Jean dans ces passages-là. OK. Puis aussi la gloire dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas la gloire de Poutine. Poutine, lui, il va être connu comme un grand conquérant. Alexandre le Grand et les autres, là, ils veulent être connus comme ayant conquéri. Mais Jésus-Christ, dans l'Évangile de Jean, il n'est pas un grand conquérant qui va montrer sa gloire d'une manière qui va frapper les regards. Il va montrer sa gloire dans le fait qu'il doit être glorifié. Puis, dans l'Évangile de Jean, tu vois souvent ça, il va dire à Pierre qu'il lui a parlé de la mort dont il glorifierait Dieu. Et quand on voit Jésus, sa croix, c'est son trône. C'est là qu'il règne. Il va venir mourir pour nous injustes. Fait que c'est plus que d'être là à la colère puis riche en bonté. C'est de prendre les offenses des autres sur lui puis de venir mourir. Fait que Jean va exploiter le thème de la gloire dans le sens qui est rejeté, mis à l'écart, crucifié et abandonné. Puis quand une personne lit ça, elle dit qu'il n'y a pas de gloire là-dedans, ce n'est que du mépris. Celui qui comprend le plan de Dieu dit, il y a toute une gloire là-dedans. Quel roi s'abaisserait à devenir serviteur, sujet, puis en plus mourir pour ceux qui sont coupables? Hein? Qui ferait ça? Et ça, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Puis c'est ça l'Évangile que Jean veut apporter, l'Évangile de la gloire. C'est pour ça qu'on appelle la deuxième partie du chapitre 13 ou chapitre 12 jusqu'au chapitre 21, on l'appelle la portion de la gloire. Là, Jésus va commencer à dire, tu sais, qu'il faut laver les pieds, puis que s'humilier, puis payer le prix pour nos frères, etc. Fait qu'il va montrer un autre aspect de la gloire. D'ailleurs, Ben est en train d'étudier comme la gloire des hommes, chercher la gloire des hommes ou chercher la gloire de Dieu, puis il nous prépare une petite étude là-dessus. Ça va être intéressant. Prochain passage, ça se passe maintenant, on quitte le prologue. Puis, je ne vais pas lire le passage qui est là. On est du verset 19 au verset 28. Et là, dans ces passages-là, il y a des gens qui sont envoyés en trolley. Mais là, les quatre premiers jours du ministère public de Jésus commencent. Puis là, on donne plus d'importance à Jean-Baptiste dans ça. Puis on lui pose des questions. On lui pose des questions s'il est telle personne ou telle personne ou telle personne. Puis j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'Évangile de Jean, quand elle utilise le trio témoin, témoignage, puis porter témoignage. En tout cas, il y a trois mots là, que quand ces mots-là sont utilisés ensemble, ça veut dire quelqu'un qui se défend dans une cour de justice. C'est utilisé plus de 70 fois dans l'Évangile de Jean. Et donc, Jean est monté comme une défense en cour de justice. Puis les témoins sont appelés à la barre un après l'autre pour venir témoigner de l'aveugle-né vient témoigner de ce qui est arrivé. Les gens viennent rendre témoignage comme ça. Donc, l'Évangile de Jean est donc un récit de témoignage pour défendre le fait que Jésus est le Fils de Dieu, puis que si on croit en lui, on peut avoir la vie. Et là, Jean-Baptiste, qui est le premier, il est interrogé, puis on lui demande, « Es-tu le Christ? » « Non. » « T'es-tu Élie? » « Non. » « T'es-tu le prophète? » « Non. » Il dit lui-même, il dit, je ne suis même pas un messager, je suis la voix. Tu entends une voix quelque part, là, c'est moi la voix quelque part. Pourquoi est-ce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui est humble? Parce que pourquoi? Lui, ce qu'il veut après, ce n'est pas que son message ait été retenu. Il ne veut pas, en tout cas, s'il veut une chose, c'est qu'il ne veut pas être celui qui est hâte d'avoir fait un message. Jean ne se nomme pas par son nom, il s'appelle le disciple que Jésus aime. Tu sais, l'autre disciple qui était avec, Jean, le Jean, pas Jean-Baptiste, Jean a cette attitude-là. Puis Jean-Baptiste, il est pareil aussi. Jean-Baptiste, c'est un témoin qui veut témoigner d'un autre. Lui, ce qu'il veut, c'est que le projecteur soit mis sur la personne qui est en train de témoigner. Et c'est ce qu'il fait. Okay? Donc, non, je ne suis pas Élie. Non, je ne suis pas le prophète. Non, je ne suis pas le Christ. Puis, il cite Ésaïe 40 au verset 3 qui dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Les Romains occupaient la Palestine. Puis les Juifs, dans ce temps-là, là, si tu seras en Ukraine présentement, là, tu dirais c'est qui le leader qui va avoir une main là, pour nous délivrer de Poutine? Ben, en Israël, c'est qui va être assez puissant pour faire des miracles à un tel point que l'envahisseur va nous quitter. Tu sais? Fait que c'était ça le contexte. Et donc, le Messie, il venait plein de promesses. Hein? Donc, Jean-Baptiste, il dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie. Élie aussi est prophétisé comme étant celui qui va venir juste avant que le Seigneur vienne sur terre pour régner. Hein? Donc, on s'attend à avoir un prophète comme ça qui va venir juste un petit peu avant que Jésus règne. Puis Jean-Baptiste, il dit non, mais on n'a pas le temps dans le message aujourd'hui de parler d'Élie qui devait venir et tout ça. Mais le baptême en Israël, il y avait des baptêmes pour la purification, différentes immersions. Mais quand tu immergeais une personne dans l'eau, c'était pour le faire changer d'allégeance religieuse. Fait que supposons que toi, tu adorais tes Messie puis Nougat. Puis là, tu viens à la foi en Israël. Puis là, tu es obligé d'abandonner Messie et Nougat comme tes dieux. Puis tu dois renoncer à eux. Tu passes par les eaux du baptême. Puis tu acceptes par là que Dieu, est le Dieu d'Israël, est le seul Dieu. On prenait donc des gens non-juifs ou des prosélytes. On en faisait des prosélytes, c'est-à-dire des disciples. Puis on les immergeait dans l'eau. Fait que, OK, toi, tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le Messie, puis tu n'es pas le prophète qui était annoncé dans Deutéronome. Dieu avait dit à Moïse qu'il enverrait un autre prophète comme lui. Tu n'es pas le prophète non plus. Ben alors, pourquoi tu baptises? Pourquoi tu nous fais changer d'allégeance? Tu sais, il y avait un changement d'allégeance. Là. C'est comme, OK, c'est pas, ben, il dit, je vous baptise pour celui qui vient. Et Jean-Baptiste va dire, je vous baptise dans celui qui vient, à cause de celui qui vient. Alors, le lendemain d'avoir été... Là, c'est là que commencent les 4 jours, puis on va regarder les 2 premiers jours, puis on va laisser le 3e jour plus tard, parce que le 3e jour, il est à Cana. Puis ça va terminer le message dans peu de temps. Donc, le lendemain, Jésus vit Jésus venant à lui. Et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il l'était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Premier jour, les gens viennent puis ils font des interrogations. Deuxième jour, il a dit, celui qui vient après moi, là, il va être plus grand que moi. Puis le lendemain, c'est ça qui arrive, Jésus arrive. Puis là, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et donc, il va l'identifier comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À quoi ça vous fait penser? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'est une bête faible. À quoi ça vous fait penser quand on pense à l'Ancien Testament hébreu? Les sacrifices, l'agneau pascal, cet agneau-là qui enlève les péchés du monde qui est sacrifié dans... Où déjà? Ah oui, le tabernacle, ou bien non, dans le lieu très saint. OK, le lieu très saint, Jésus, ah, plein de gloire. La gloire de Dieu, ah, ah, c'est là, le sacrifice a lieu exactement là où est la gloire. Ah, sacrifice, gloire, évangile de Jean. Waouh, mais les rangs partent dans tous les sens. C'est trop pour une fois, il faut qu'on y revienne. Oui, Ésaïe 53, 7, Dieu, en fait, se présenter devant Dieu qui est trop saint, le péché doit être enlevé pour que je puisse me présenter dans sa présence. Et Jésus est cet agneau-là qui vient enlever le péché. Hein, ou la belle image de cet agneau mâle qui a été pris dans les branches, puis qu'Isaac a été sauvé grâce à donc, ce substitut qui fait qu'il y en a un des deux qui paye, puis c'est pas toi. Tu sais. Ça, c'est. Déjà, Jean, il commence, il y a chapitre 1, agneau. Agneau. Tu sais, Matthieu, il va parler d'encens là, à sa naissance, tu sais, que ça parle d'un embaumement. Là. Mais garde, Jean, c'est comme, garde, on ne perdra pas de temps ici, on va parler tout de suite. On n'aura pas besoin de passer ben, du temps à parler du vin et du pain durant le dernier repas. On en parle déjà dès le chapitre 1, l'agneau. Alors, enlever les péchés du peuple. Déjà là, il le voit, puis il dit ça devant le monde qui est là. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus, il vient, puis qu'est-ce que Jean y voit? Il a vu l'Esprit descendre sur lui. Deuxième témoignage. Le premier témoignage que Jean-Baptiste lui rend, c'est qu'il est un agneau qui va venir payer pour nous. Deuxième témoignage, c'est qu'il y a une rencontre surnaturelle. Il ne connaissait pas où il connaissait, il connaissait. C'était le fils de son petit cousin. Mais ça ne lui avait pas été révélé que c'était que le Saint-Esprit viendrait sur lui. Donc, quand il dit « je ne le connaissais pas », c'est comme si je dirais « on joue à un jeu de société, puis on joue à loup-garou, on a tous les yeux fermés, puis Pierre, c'est le loup-garou, mais je ne savais pas que Pierre était le loup-garou. » C'est ça que Jean-Baptiste dit. Il dit « je ne savais pas », tu sais, dans le sens où il connaissait, peut-être qu'il avait entendu parler Élisabeth, toute l'histoire, mais Dieu, il a dit « quand l'Esprit va descendre sur lui, là, tu vas comprendre que c'est lui. » Oui, question. Vas-y. Oui. Non, ça ne se passe pas en 3 jours, ça se passe en 4 jours. On est rendu lendemain, mais il y a 4 jours. Puis je pense que le but de ces journées-là, c'est pour montrer que dès que Jean l'a reconnu, il a passé le bâton rapidement. Puis que lui, Jean, tu sais, Jean, il va dire que je diminue au chapitre 3, il va dire que je diminue et qu'il grandisse. Donc, je pense que ce que l'évangéliste Jean veut faire, il veut nous montrer que rapidement, quand Jean-Baptiste l'a reconnu, il n'avait même plus besoin d'être son témoin. Puis là, on va voir des disciples qui vont s'ajouter rapidement. Donc, c'est 4 jours. Vous allez voir 3 fois le lendemain, mais 4 jours. Mais on voit que c'est comme succinctement, là, ça arrive. Mais ta question est bonne, c'est 4 jours. Puis le troisième témoignage, puis là, vous avez étudié avec moi les manuscrits, les anciens manuscrits. Donc, ici, c'est écrit qu'il dit le Fils. La fin. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, mais dans les manuscrits anciens, c'est le oint de Dieu ou le choisi de Dieu. Puis l'auteur que j'étudie dit, moi, je pense que c'est vraiment le choisi de Dieu. Parce que dans Ésaïe 41:2, il y a une prophétie qui dit que Dieu va... Il dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il fera voir le jugement à l'égard des nations. Donc, voici mon élu. Je mets mon esprit sur lui. Donc, c'est ça, dans le sens où le Saint-Esprit est descendu, puis c'était ce qui était attendu de la part du Messie. Fait que là, on va arrêter là, puis on va continuer. Donc, on aura donc eu l'interrogation. Donc, dans les 4 jours, on aura vu l'interrogation. On aura vu le lendemain, le baptême. Le Saint-Esprit descend sur lui. On reprendra à partir de là, tout simplement, pour le prochain message. Qu'est-ce que vous en pensez? All right. On finit par un mot de prière? Yes. Puis si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me voir. À cause du temps, on va quand même arrêter maintenant. Seigneur, peu de temps, beaucoup de mots, mais quelle bonne nouvelle, Seigneur. Moïse, il a demandé à voir ta gloire, puis tout ce que tu as trouvé à dire, c'est des paroles. C'est ça, c'est là qu'il a vu ta gloire, dans les paroles qui ont été dites. Puis la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Des paroles audibles. Jésus qui est le créateur du monde, qui a habité parmi nous. Une grâce qui dépasse ce qu'on avait connu avant. Puis en plus, tu habites dans chacun d'entre nous. Tu as fait ta tente en nous. Depuis qu'on t'a accepté, on est devenu la maison du Seigneur. Il était un temps où ta gloire se voyait dans le tabernacle, dans le temple, puis après en Jésus-Christ. Et maintenant, il se voit dans les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit. Je te remercie pour l'évangile de Jean, Seigneur Dieu, qui présente royalement ta divinité, Seigneur Dieu, et ta gloire. Une gloire qui est prête à, pas à conquérir le monde par la force, mais à conquérir le monde par le sacrifice. Donne-nous un cœur comme Jean-Baptiste, qui ne voulait même pas être reconnu comme un messager, mais une simple voix. Donne-nous le cœur de Jean, aussi, Seigneur Dieu, que les gens sachent assez sur nous, mais surtout qu'ils connaissent notre foi, le Dieu qu'on sert. Si quelqu'un écoute ce message, qui n'a pas reçu la capacité de devenir un enfant de Dieu, eh bien, il peut le faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reconnaître que Jésus l'aime à ce point qu'il est venu sur la terre. Il a habité parmi nous. Il a fait la vie d'obéissance que nous devions faire et est mort de la mort que nous devions mourir. Pas nécessairement par crucifixion, mais il a pris le jugement que nous méritions en mourant sur la croix. Parce qu'on a péché, puis on ne mérite pas. On ne mérite rien, en fait. On mérite la justice. On accepte ce que Jésus a fait à la croix, sa transaction pour nous, puis on lui demande de devenir notre sauveur, notre Dieu, notre Créateur. On lui laisse la possibilité de l'être. Donc, simplement, si tu veux faire cette prière-là, tu ne l'as jamais fait, répète après moi cette prière-là et puis crois dans ton cœur ce que tu dis. Et la Bible promet que tu vas devenir toi aussi un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es le Créateur du monde, que tu es venu sur la terre comme un homme, que tu as vécu une vie parfaite et sans péché, que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts et que tu donnes la vie éternelle à ceux qui se confient en toi. Mais je me confie en toi pour le pardon de mes péchés. Sois mon Dieu et mon maître. Amen. Dieu vous bénisse. Je peux-tu faire ça? Je vais essayer. Donc, juste, je vais arrêter l'enregistrement. Restez là, ceux qui sont avec nous. Puis je vais arrêter l'enregistrement.